Chapitre 67. Groggy, Gabriel avait la sensation qu'un cheval lancé au galop lui donnait des coups de sabot. Quand il voulut relever ses paupières, seule la droite lui obéit. L'autre resta collé à la rétine, gorgée de sang. Après la douleur, il eut l'odeur. Une morsure foudroyante, l'impression qu'on allumait un lance-flamme à l'intérieur de sa gorge à chaque inspiration. Il sentit la brûlure jusqu'à la dernière alvéole de ses poumons. Il eut enfin la vision, si irréaliste et monstrueuse qu'il ne pouvait s'agir que du plus profond des cauchemars. De l'autre côté du plexiglas du cylindre, face à lui, des lambeaux de chair rougeoyante tentaient de s'accrocher aux os comme des algues sur un rocher. Est-elle de minuscules crabes voraces, des bulles dévoraient par milliers la matière, qu'elle fût tendons, calcium, graisse, kératine. Gabriel vit littéralement un visage disparaître, puis le crâne, et tout ce qu'il y avait autour en un panache incandescent qui s'élevait dans la froidure de l'entrepôt. Un corps se dissolvait. Son œil valide roula dans son orbite. Il était debout, les mains attachées dans le dos, entravées par la chaîne qu'il avait percutée. Quelque chose lui cisaillait les chairs au moindre mouvement. Il se contorsionna pour constater qu'un cerflex reliait ses poignets et l'un des gros maillons. Il était capable d'avancer, de reculer de trois pas, mais la chaîne le ramenait toujours à son point de départ. Un pantin. Dans le cylindre en plexiglas, la couleur du liquide tournait au marron poisseux. À sa gauche, un baril en plastique noir était ouvert, son couvercle posé sur le sol. Un autre était en suspension dans l'air, vide, piégé dans les mâchoires de la pince hydraulique. Le transpalette semblait comme perdu au milieu de l'immense pièce, ses deux petits phares ronds allumés projetaient leur faisceau vers cette scène d'horreur. Dehors, dans la nuit, il pleuvait encore à verse. Les parois vibraient, l'eau ruisselait. Gabriel se demanda combien de temps il était resté dans les vapes. Soudain, un raclement de chaîne le réveilla tout à fait. Il sentit un courant d'air frais au-dessus de sa tête, releva le menton pour découvrir, maintenu par les pieds, le cadavre de la femme au sein en moins. Le cadre avec les visages de Julie et Mathilde était collé contre son abdomen, entouré de plusieurs épaisseurs de scotch. Les bras morts se balançaient, flasques, juste animés par la force de translation. Au niveau du plafond, un treuil glissait dans des rails le long d'une poutre en acier. À ce moment seulement, Gabriel remarqua, dans une bouche d'ombre derrière les phares du transpalette, qu'une silhouette était aux commandes. Le reflet d'un masque à gaz plaqué sur un visage se détachait des ténèbres. L'individu jeta un cube noir qui rebondit et atterrit au pied de Gabriel, un traceur GPS. « Toujours prendre ses précautions », annonça une voix à l'accent russe. Un deuxième traceur caché sous la voiture au cas où le premier serait découvert. T'es le pire fouille merde que j'ai jamais rencontré. J'aurais dû t'exploser la tête dans ta chambre d'hôtel en même temps que Vanda.
Oui, ma fille.
Gabriel peinait à articuler. Toute la partie gauche de son visage devait être enflée. Mais il ne souffrait pas. La peur l'anesthésiait.
Cette conne de Vanda avait coupé les liens avec le milieu depuis 3 ans. Elle s'était rangée, mais je continuais à la surveiller. Je me suis toujours méfié de ceux qui gravitaient autour d'elle. T'en faisais partie.
Je t'ai observé.
J'ai enquêté, j'ai décelé le loup en toi. Quand j'ai vu que tu retournais à Saga, j'ai compris. Le père de l'un d'eux.
Qui l'un d'eux? Pourquoi vous faites ça?
Parce qu'on me paie.
C'est mon boulot.
L'homme se concentra sur sa tâche. Avec son masque à double cartouche, ses longs gants jaunasses, sa blouse d'un bleu uniforme, il ressemblait à une fourmi géante et effroyable. Au-dessus, le corps nu oscillait tel un pendule improbable.
La soude caustique, ça te transforme en savon. Mais ça ne marche pas pour les os. L'acide fluorhydrique, lui, il est encore plus puissant. Il adore le calcium, il élimine tout. Il reste pas mal de réserves planquées ici entre les barils vides. De quoi travailler encore pendant longtemps.
Comme au jeu de la grue où l'on attrape des peluches dans les fêtes foraines, il guida le cadavre juste au-dessus de la cuve où le panache de fumée continuait à empoisonner l'atmosphère. Il attendit qu'il se stabilise.
« Je suis de nouveau passé faire un petit tour chez toi pour le tableau. Vanda devait juste le récupérer à la mort de Chmielnik parce qu'on n'aime pas laisser traîner ces choses-là. C'est sensible, tu comprends ?»
Mais il a fallu que ce putain de brocanteur venu de je ne sais où l'emporte avant nous, et que toi tu le retrouves. C'est ça qui a foutu la merde. Maintenant je dois faire le ménage.
Il poussa une manette. La masse blanchâtre opéra une douce descente dans le cylindre. Les bras, le crâne, puis la totalité du corps s'enfoncèrent dans un chuintement identique à celui d'une canette de soda qu'on secoue et qu'on ouvre brusquement. Les crabes se ruèrent sur le moindre millimètre de peau et entamèrent leur sinistre besogne. Gabriel se retint de vomir. La masse organique fondait sous ses yeux. L'autre cadavre, lui, était déjà réduit à l'état de boule de graisse difforme.
Le décès de Chmielnik n'a rien changé à ce qui se passe dans son entrepôt. Il m'en a même laissé les clés. Je l'aimais bien, ce gars. Tu sais... Ici, c'est le meilleur endroit du monde pour faire du nettoyage. Regarde.
Moins de 2 minutes après l'immersion complète, il restait juste un morceau de la corde qui ligotait initialement les 2 pieds nus de la femme. Gabriel toussa longuement et laissa s'échapper un filet de bile. Il rouvrait à peine l'œil qu'une décharge lui frappa la mâchoire. Masque à gaz autour du cou, l'homme l'agrippa par le col. Il n'était pas grand, mais c'était une brute tout en air, aux courts cheveux blonds, plaqués comme si on lui avait posé une pieuvre sur la tête. Le tatouage d'une toile d'araignée lui mordait une partie du cou. Des traces de griffures lui barraient la joue gauche, probablement celle que Vanda lui avait faite pendant qu'il la tuait sur la berge.
« T'es pas du genre à lâcher l'affaire, enfoiré. Tu te rends compte que j'ai dû interrompre mon taf avec ces deux-là quand j'ai vu que t'étais réapparu dans le Nord ?» T'as su échapper aux griffes des flics malgré ton sperme partout sur le cadavre de Vanda. T'es coriace comme un putain de grizzly.
Une nouvelle gifle, monumentale. Gabriel sentit le goût du sang dans sa bouche et lui cracha à la figure. L'homme s'essuya du dos de la main d'un geste lent qui dévoila un sourire de squale.
Elle était bonne, ta fille, quand je l'ai foutue dans ma bagnole. J'ai joué un peu avec... avant de la livrer à son destinataire.
Je vais te tuer.
Toi, tu vas me tuer. On verra bien si tu feras le malin quand je te plongerai dans l'acide. Je débuterai par le haut de la tête, et je t'immobiliserai là jusqu'à ce qu'on voie l'intérieur de ton crâne. Ensuite, je te laisserai pendouiller. Puis, je réitérerai l'opération jusqu'à ce que l'os soit attaqué. Ça fera quoi, à ton avis, quand l'acide croquera ton cerveau?
Et puis, attends. J'ai encore un truc pour toi.
Il sortit le portable de Gabriel de la poche de sa blouse et lui fit écouter le message de Paul.
Je suis à l'hôtel Neptune, à Berck-sur-Mer. Rappelle-moi, même à 3h du mat. Ton silence commence sérieusement à m'inquiéter.
L'hôtel Neptune. Quand j'en aurai fini avec toi.
J'irai tuer ton collègue,
puis ta vieille mère. Je chaufferai une casserole d'eau bouillante et je la lui verserai sur le visage. Après, je lui briserai les os des mains, des pieds.
Gabriel voulut se jeter sur lui, mais l'homme l'évita à la manière d'un matador. Il rangea le téléphone et se rendit dans un coin de l'entrepôt. Sa voix se perdait dans le vide. Gabriel avait beau se battre contre ses liens, à s'en arracher la peau, c'était trop serré.
Je reviendrai ici finir le boulot. Il faut une bonne 10 heures pour que l'acide fasse vraiment tout disparaître, jusqu'au dernier gramme. 300 litres d'acide par corps, c'est le meilleur dosage, croisant mon expérience. J'en ai vidé 1000 dans la cuve. C'est juste 2 barils. Il y a largement de quoi te transformer en bouillie, toi aussi.
L'homme réapparut avec de gros jerricans vides qu'il déposa à côté de la cuve.
On appelle ça l'assassinat sans cadavre chez nous.
Ça encore,
aucun moyen de retrouver qui que ce soit. Ils deviennent... Il agita la main en l'air.
Pchut!
Il s'arrêta devant Gabriel et brandit un revolver. Gabriel reconnut un vieux Makarov PM, un pistolet russe.
Beau flingue, n'est-ce pas? Impossible à tracer. Référencé nulle part. La prudence.
Et des fausses plaques?
J'en ai plein le coffre. Pas de papier sur moi, pas de téléphone. Un inconnu. Un fantôme. Personne ne sait qui je suis, personne ne peut remonter aux sources. Et si quelqu'un est trop curieux, bang! Facile la vie, camarade.
Il fit plusieurs allers-retours en pilant les réservoirs.
Le truc incroyable avec l'acide, c'est que ça n'attaque pas le plastique. Un corps, c'est 6 jerrycans. Tu ouvres le robinet et tu les remplis un par un.
Puis tu les répands à droite, à gauche, dans la nature, dans les égouts, les rivières, même dans les chiottes.
C'est là que tu vas finir. Tu vas rejoindre la merde souterraine, éparpillée comme un putain d'engrais.
Gabriel se sentit vaciller. Seule la tension de la chaîne l'empêcha de sombrer. Il imagina Julie, Mathilde et tant d'autres, volatilisés à tout jamais, rayés de la planète par ce taré.
Tu vas me buter. Alors dis-moi au moins ce que tu as fait de ma fille.
Le russe sembla l'ignorer, concentré sur ses manipulations pour descendre le crochet du treuil entre Gabriel et la cuve. Il revint avec une nouvelle corde.
Ça ne risque pas de te rassurer, mais je ne lui ai rien fait,
répliqua-t-il en plissant les yeux à cause des émanations toxiques.
Je ne suis qu'un messager. Ta fille... C'était juste un colis spécial que j'ai déposé à un destinataire. Le reste, c'est d'autres qui s'en occupent. Et je ne suis pas au courant de tout ça. Leur secret, tu comprends? Mais je crois bien qu'elle est morte pas si longtemps après.
Salopard! Vaste sourire. Il détacha le lambeau de corde qui pendait toujours du treuil et le balança dans la cuve au liquide devenu opaque. Puis il noua l'extrémité de l'autre lien d'un geste expert de marin, à la fois vif et appliqué. Gabriel devait trouver une issue. Il ne voulait pas crever. Pas comme ça. Il n'entrevoyait aucune solution de fuite. Juste un minuscule espoir. Pour le plonger dans la cuve avec le treuil, le tortionnaire serait obligé de lui libérer les poignets. À un moment, il lui faudrait couper le cerflex.
Ces deux corps que tu fais disparaître, qui sont-ils?
J'en sais rien. Je m'en fous. Ferme-la maintenant. Il frappa Gabriel de toutes ses forces, l'assommant à moitié, et lui attrapa les deux jambes qu'il leva à hauteur de hanche pour l'attacher au treuil. Puis il alla actionner une manette et ce dernier s'éleva. Le prisonnier était à 1 mètre au-dessus du sol, les bras en arrière à lui démettre presque les épaules. En position de hamac, suspendu entre la chaîne et le treuil, il pleurait de douleur, aveuglé par les larmes. Sans doute son bourreau ne se méfiait-il pas assez lorsqu'il coupa le cerflex avec une pince. Au moment exact où il sentit l'emprise se relâcher, Gabriel se vrilla comme une truite sort de l'eau et attrapa au jugé le masque du russe qu'il tira à lui, plongeant en même temps ses mâchoires grandes ouvertes vers le premier morceau de chair offert sur sa trajectoire. Il arracha un bout d'oreille, tandis que la solide sangle jugulaire du masque s'enfonçait dans la peau de son tortionnaire juste au-dessus de la pomme d'Adam et lui écrasait la trachée. Ce dernier tenta d'agripper la sangle, le visage cramoisi, poussant des grognements. Puis il fonça vers l'avant, l'arrière, cogna contre la paroi de la cuve, chercha à saisir la tête de Gabriel qui ne faiblissait pas. Impossible de dire combien de temps dura l'étranglement, d'interminables minutes certainement. Les muscles de Gabriel étaient tétanisés quand enfin il perçut l'épuisement du buffle blessé, qui résiste toujours mais ploie petit à petit sous le poids de son propre corps. Le russe tentait encore quelques coups de tête avec l'intention de se dégager, quand soudain ses bras tombèrent, ses jambes mollirent. Le sol l'attira à lui, mais pas tout à fait, car Gabriel ne lâchait pas tant que la poitrine bougerait. Lorsqu'il libéra la pression sur la sangle, l'homme avait les yeux exorbités.
deux puits de sang rouge vif. Ses mâchoires s'étaient rabattues dans un ultime réflexe et lui avaient cisaillé un bout de langue. Il tenait par un fil.
Pieds en l'air, nuque et épaules posées sur le sol, bras en arrière, Gabriel reprenait son souffle. Il cracha un mélange de chair et de sang. Au bout d'une minute, il s'agita et parvint à libérer ses pieds de la corde. Il chuta. Perclus de douleur, il puisa la force de se redresser. Tellement vivant que son cœur semblait se comprimer et se détendre dans sa gorge. Son agresseur le fixait, un masque d'effroi sur le visage. Il le fouilla, mais l'homme n'avait pas menti. Aucune carte, ni ticket de caisse ou de parking, pas le moindre papier. Gabriel récupéra son téléphone puis tourna sur lui-même les mains sur le crâne. Ses poumons le brûlaient. Il avait tué ce type. Question de survie, certes, mais il y avait bel et bien un cadavre à ses pieds, couvert de ses empreintes, de son ADN. Il fixa du regard l'individu, les mâchoires serrées.
« Je n'irai pas en prison pour toi. C'est toi qui vas rejoindre la merde souterraine. »
Il enroula la corde autour des pieds du Russe. Il le photographia avec son téléphone, la seule trace qu'il aurait jamais de lui, ainsi que le cadavre de la seconde femme en train d'être dissous. Puis il se dirigea vers les manettes. Il ne lui fallut pas longtemps pour en maîtriser le fonctionnement. D'un geste, il souleva le corps, d'un autre, il le déplaça dans la direction voulue. D'un mouvement sec, il l'amena jusque dans la cuve.
« Pour Julie, salopard !»
Les crabes se mirent immédiatement au travail. Les iris de Gabriel brillèrent de vengeance tandis que ceux de son tortionnaire disparaissaient en une mousse brune jusqu'à laisser deux cavités béantes. Gabriel resta là de longues minutes sans bouger, le souffle court, à réfléchir à la suite. Il essuya les commandes avec un chiffon, jeta le serflex et le traceur GPS dans la cuve, puis tourna le robinet pour créer un goutte-à-goutte rapide. Les crabes dansèrent au contact du béton froid. À ce rythme-là, il faudrait des jours pour que le cylindre se vide, largement de quoi digérer le Russe pendant ce temps-là. Et la mélasse qui allait se répandre en un lac gigantesque rendrait toute analyse de la scène impossible. Gabriel imagina la tête des flics qui se pointeraient ici, parce qu'ils finiraient par venir dans un mois, dans un an. Quand il sortit enfin, la pluie mitraillait toujours les parois du bâtiment. Les gouttes explosaient dans les flaques. Boitillant, trempé, il récupéra les cadenas fracturés, courut jusqu'à l'utilitaire du Russe qui s'était garé à proximité de la grille d'entrée, photographia la plaque probablement fausse et ne toucha pas au véhicule pour ne pas laisser d'empreinte. Il se rua vers sa voiture. Ses poumons sifflaient étrangement, sans doute brûlés par les vapeurs. Il ouvrit grand son carreau. Il avait besoin de flotte sur sa peau et d'air pur dans sa trachée. Le miroir du rétroviseur lui renvoyait une image effroyable. Toute la partie gauche de son visage était boursouflée, violacée. Cinq minutes plus tard, il regagnait la route à travers champs, pied au plancher. Il balança les cadenas dans un fossé. Fuir loin d'ici, quitter à tout prix ce pays maudit. Il composa le numéro de Paul, qui ne lui laissa pas le temps d'en placer une.
« J'étais mort d'inquiétude. Qu'est-ce que tu foutais, bon sang ?»«
Dis-moi qu'on est les seuls au courant pour Chmielnik, que t'as informé personne du contenu de mon SMS. »«
Tu as vu l'heure ?»«
Je le ferai demain. »«
Non, il faut que tu effaces ce message. Il n'y a plus de Chmielnik, plus de Belgique.
Il y a eu un problème.
Le kidnappeur de Julie, le type qui conduisait la Ford grise à l'époque. »«
C'était lui ou moi. »«
Le kidnappeur ? Lui ou toi ?
Tu veux dire que, à l'heure qu'il est en train d'être dissous dans de l'acide ?»